Vivre FM, la vie des associations, podcast.
La vie des associations sur Vivre FM reçoit donc aujourd'hui l'association Prader Willy France. Et c'est Caroline Richard qui nous en parle, qui est la présidente de l'association. Présidente fondatrice pour la France?
Non.
Bonjour Caroline.
Bonjour Benjamin, non, vous m'avez gâté d'un titre qui n'est pas du tout le mien. Non, je viens juste pour représenter l'association. Le président, c'est François Beignet.
D'accord.
Et la fondatrice n'est plus actuellement membre du conseil d'administration. Mais
d'accord. On salue François Beignet en tous les cas. Merci Monsieur le Président de nous avoir apprêté l'une de vos plus valeureuses porte-paroles. Vous connaissez les studios du Vivre FM, vous avez déjà emprunté leur micro et on est ravis de vous recevoir de nouveau. Bonjour Caroline.
Bonjour Benjamin.
Quelques mots, je vous demandais de parler de l'association de Prader Willy France, de nous en parler en quelques mots, voire quelques phrases. Ça donnerait quoi?
L'association Prader Willy France, c'est avant tout une association qui est là pour accompagner les personnes malades et leurs familles. On suit les évolutions qui sont autour du syndrome.
Donc syndrome de Prader-Willi.
Le syndrome de Prader-Willi autour des évolutions, autour des travaux de recherche et aussi dans l'approche de l'accompagnement des personnes malades. Et on accompagne au quotidien toutes les familles, quel que soit leur âge et quelle que soit la situation de leurs enfants.
Vous aurez plein de choses à dire quant à l'association, quant au syndrome, mais tout de même quelques mots pour qu'on sache un petit peu ce dont il s'agit quand on parle du syndrome de Prader-Willi.
Alors, le syndrome de Prader-Willi, c'est une maladie génétique rare, très grave et extrêmement complexe. Elle touche environ 40 nouveau-nés par an. Elle est non héréditaire. Et chez les personnes atteintes par ce syndrome, en fait, c'est le chromosome 15 qui est partiellement inactif et qui induit de nombreux dysfonctionnements neurologiques et hormonaux et qui donc entraîne une longue liste de symptômes très handicapants.
On va reparler de cette longue liste tout à l'heure, on va en reparler concrètement, évidemment on va parler du rôle de l'association, mais moi je voudrais qu'on parle de cette actualité brûlante, enfin presque brûlante, hein, puisque c'est le 12 juin prochain que vous allez organiser cette marche pour Prader-Willi, un pas pour Prader-Willi.
Voilà, c'est la marche un petit pas, parce que pour l'instant, on fait plein de petits pas, Benjamin.
Mais ce sont les petits pas qui font qu'un jour, on marche et que, éventuellement, on va loin, et j'espère que vous irez loin.
Exactement. Donc, cette marche, elle a lieu, comme chaque année, autour du lac de Ménil, dans le bois de Vincennes. Mmh. Donc, on commence à accueillir les gens en fin de matinée, en espérant que le soleil sera de la partie.
Il le sera. Il le sera, évidemment. Le 12 juin, quand même, si le soleil n'est pas installé, quand le sera-t-il?
J'espère. Donc, on accueille les gens en fin de matinée et ensuite, on permet aux personnes de pique-niquer sur place en amenant leur propre pique-nique. C'est très convivial. Il y aura plein d'activités pour les enfants, des jeux, des clowns, du maquillage, des ateliers sensoriels pour les plus petits. On essaye d'avoir un stand aussi d'explication autour du syndrome. On aura le conseil scientifique qui sera là et qui pourra parler aussi des avancées de la recherche.
Est-ce que tout le monde peut se rendre sur place? Est-ce qu'il faut s'inscrire? Tout le monde peut venir et participer aux activités?
Alors bien sûr, tout le monde peut venir. L'inscription, elle se fait sur place le jour de la marche. C'est bien entendu gratuit. Les personnes qui souhaitent donner pour la recherche sont les bienvenues pour le faire le jour de la marche. Et chacun a un t-shirt pour afficher nos couleurs et marcher autour du lac. Donc l'année dernière, on était 550 autour du lac de Ménil.
Joli.
Ouais, on espère qu'un jour on pourra faire le tour en se tenant la main.
Ah oui, ça serait pas mal finalement, on n'aurait même pas besoin de marcher.
Exactement.
Hein, on se placerait autour du lac et finalement on ferait une grande chaîne humaine.
Voilà.
Vous avez calculé combien de personnes il faudrait justement pour faire le tour?
Ah non, ce serait à faire ça, Benjamin.
Ah oui, absolument. Essayez de le faire cette année par exemple.
Oui, ça marche, on fera ça.
Alors justement, à quoi sert l'inscription puisque vous le dites, c'est gratuit, c'est pour la remise des t-shirts?
Alors en fait, l'inscription, ça nous sert pour avoir les coordonnées des personnes en cas de soucis. On est obligé, compte tenu de l'assurance, d'avoir aussi...
À partir du moment où, effectivement, vous êtes une association, que vous organisez quelque chose,
exactement,
il vous faut un maximum...
de responsabilité, d'accord, si vous voulez. La mairie de Paris doit nous donner son accord pour utiliser la pelouse du lac de Ménil. Enfin,
d'accord.
On est
donc
obligé de respecter certaines règles.
C'est ça, c'est pour des données administratives.
Voilà, et puis aussi pour savoir aussi combien on était. C'est intéressant pour nous de voir que chaque année, on a démarré, on était 80 la première année en 2011, donc 550.
Ah joli, voilà. Alors je peux pas faire le calcul comme ça, mais on peut dire que c'est
un beau
plus qu'exponentiel, oui.
Ouais. Oui. Ouais.
Et qui sont ces gens qui viennent? Vous aviez 550 personnes l'an dernier. Qui sont ces gens? Quel profil? Est-ce qu'ils connaissent déjà la maladie?
Alors, on ne demande pas les noms. Hein. Vous n'avez pas amené la liste. Non, on ne va pas faire l'appel tout de suite.
On va éviter. Mais... Alors, la plupart du temps, c'est plutôt, bien entendu, les familles. Les familles, les personnes atteintes, tout l'entourage, les amis. On a beaucoup les soignants aussi, de plus en plus les structures d'accueil qui se déplacent aussi, et là on a une page, un petit pas sur Facebook que j'administre, j'affiche de l'actualité tous les jours. On a plein de gens qui sont pas touchés par le syndrome qui sont inscrits sur la page et donc qui potentiellement, peut-être, je l'espère, viendront cette année.
Alors, de 80 personnes que vous étiez en 2011, vous étiez donc en 2015 550. Ça veut dire qu'il a fallu médiatiser, il a fallu mettre, j'allais dire, de l'huile de coude. Comment on fait pour médiatiser, un événement comme ça, au point de le rendre tout de même très populaire, on peut dire ça comme ça?
Écoutez, médiatiser, c'est pas évident sur Paris de sortir du lot. Donc, j'essaye toujours de faire des dossiers de presse, de les envoyer aux journalistes. Vous êtes toujours fidèle au poste.
Ça nous fait plaisir de vous tendre le micro parce qu'on sait que vous êtes utile et on espère bien que la recherche un jour viendra à bout de ce dysfonctionnement génétique.
On l'espère aussi, en tout cas, pourra aider à soigner une grande partie des symptômes qui atteignent.
Donc vous comptez sur tout le monde, vous comptez sur les journalistes et puis de temps en temps il y a les artistes également qui vous prêtent, j'allais dire, main forte, voire corps fort, en tous les cas corps prêt à abriter le t-shirt, c'est ça?
Ah oui,
le t-shirt.
Ouais, tout à fait, Benjamin, on a beaucoup d'artistes qui ont accepté de porter nos couleurs et de faire un petit pas avec nous pour le syndrome de Prader-Willi.
Ce qui fait que grâce à eux l'association a de l'étoffe. Alors, ouais. Vous avez quelques artistes. On peut les voir, ces artistes habillés, vêtus de ce t-shirt?
Oui, alors vous pouvez les voir sur notre Instagram, un petit pas PW, comme Prader-Willi. Et vous pouvez les voir aussi sur notre page Facebook qui s'appelle Un petit pas pour le syndrome de Prader-Willi, WI2LI.
D'accord. Qui sont-ils, ces artistes? Ils sont nombreux. Enfin, on va peut-être pas faire une liste exhaustive parce que ça ne sera pas possible. Mais tout de même, il y a des grands noms. Vous me parliez tout à l'heure de Jean-Jacques Goldman.
Oui, Jean-Jacques Goldman. Florent Pagny, Yannick Noah, Isabelle Nanty, on a eu Louane, on a eu les frérots de la Vega.
Alors comment on fait justement, puisque vous disiez votre difficulté de médiatiser, malgré tout, vous avez un certain talent pour ça. La preuve, c'est que on le répète, de 80 en 2011, vous êtes passé à 550 en 2015. Comment procède-t-on pour faire porter ce t-shirt aux artistes?
Alors, on a la chance d'avoir une maman qui travaille dans le milieu du showbiz, donc qui a accès aussi. Elle travaille avec Patrick Sébastien, donc elle a accès à beaucoup d'artistes. Mon mari travaille aussi dans le milieu de la musique, donc il a très souvent sur des festivals accès à de nombreux artistes. On essaye par nos connaissances.
C'est ça, et toutes les volontés sont les bienvenues. Vous êtes la bienvenue sur l'antenne de Vivre FM. Vous restez avec nous jusqu'à 11h. Dans un instant, on continue de parler avec vous, Caroline Richard, de l'association Prader-Willi France.
Jusqu'à 11h, la vie des associations sur Vivre FM.
Vivre FM tente aujourd'hui ses micros en direction de l'association Prader-Willi France et en celle, par conséquent, de Caroline Richard, qui est venue nous en parler. Vous parliez tout à l'heure au début de l'émission de la recherche. Évidemment, elle est très importante, même si c'est vrai qu'elle a du mal avec ce dysfonctionnement génétique que constitue le syndrome de Prader-Willi. On en parlera de cette recherche tout à l'heure, mais peut-être, justement, doit-on en savoir, nous, davantage sur le syndrome de Prader-Willi? Qu'est-ce que c'est ce syndrome?
Alors, en fait, c'est un syndrome, comme je vous le disais tout à l'heure, qui atteint le chromosome 15 et qui dérègle l'hypothalamus et l'hypophyse. Donc, c'est classé dans les maladies neurologiques. Les principaux symptômes sont les troubles du comportement, qui peuvent être proches de ceux de l'autisme, les difficultés d'apprentissage, le retard de développement moteur intellectuel, le retard de croissance et surtout les troubles alimentaires. Les enfants atteints de ce syndrome ont tous une envie irrépressible de manger, avec une recherche systématique de nourriture. En fait, c'est...
Il n'y a pas un moment où, effectivement, l'enfant n'a plus faim, il va s'arrêter. Alors, évidemment, ça serait toujours trop tard, parce qu'effectivement, on sait difficilement se raisonner. Déjà, quand on a un comportement normal en tant qu'enfant, bah, on en veut toujours davantage. Mais il y a un moment donné, on s'arrête. Pour ce qui est des enfants touchés par le syndrome de Prader-Willi, ils ne s'arrêtent pas.
Non, ils connaissent pas, en fait, la sensation de satiété. Le fait de ne plus avoir faim... Et si elles sont pas entourées et accompagnées, ils peuvent manger jusqu'à en mourir, en fait. C'est une addiction comme une addiction au crack ou à des drogues dures.
Là, on parle des enfants. Est-ce que lorsque ces enfants deviennent adultes, ça se poursuit, ce trouble de la satiété se poursuit? Est-ce qu'il faut que toute leur vie, ils se surveillent?
Alors oui, c'est vraiment le gros problème et le gros enjeu de cette maladie, c'est que toute leur vie, ça va durer. C'est ce qui fait aussi qu'ils développent des grosses frustrations et des problèmes de comportement aussi, autres que comportement alimentaire. Parce qu'il faut savoir que la nourriture est une drogue, mais c'est une drogue en libre service pour eux. C'est-à-dire qu'elle est présente partout, oui. Elle est en vente libre partout, tout le temps.
Oui, c'est ça, il y a toujours moyen de trouver quelque chose à manger dans cette société. Hein.
Oui, et puis les gens minimisent ce symptôme, parce qu'on se dit, bon, bah, après tout, ils peuvent manger quand même.
Après tout, bon, s'ils veulent manger, qu'ils mangent.
Voilà, exactement.
Hein. Sauf qu'on ne sait pas, enfin, que les personnes, évidemment, qui ont affaire à ces enfants-là, pour un temps donné, ne savent pas que pour ces enfants-là, il est impossible qu'ils s'arrêtent de manger.
Oui, c'est très compliqué à cerner et à saisir, et du coup c'est des personnes qui ont beaucoup beaucoup de mal à vivre seules, même à l'âge adulte, en fait.
Il faut toujours être derrière eux pour les aider à contrôler leur addiction à la nourriture. C'est pas une addiction, c'est une addiction.
On peut parler d'addiction, tout à fait. Et en fait, il faut les aider. Je pense dès le plus jeune âge, leur expliquer les vraies règles du comportement alimentaire, comment on mange sainement, etc. Nous, par exemple, avec nos jumeaux, on ferme la cuisine à clé tout le temps. Et en fait, quand la cuisine n'est pas fermée à clé, eux vont la fermer à clé d'eux-mêmes.
C'est bien.
C'est formidable.
Ils ont besoin aussi, eux, de ne pas voir la nourriture.
C'est formidable.
Ils savent que s'ils la voient, ils vont la voler et la manger.
C'est formidable, parce que vous parliez tout à l'heure de troubles du comportement. Néanmoins, ces enfants-là ont compris. Vous êtes parvenu à leur faire comprendre que manger pour eux, c'était pas bon. Hein.
Ouais, on leur a fait comprendre que le sucre, c'était très mauvais pour leur corps. Alors bon, nos enfants, ils ont 5 ans et demi, donc ils sont encore petits. Après, vous savez bien, l'adolescence, c'est un moment clé et particulièrement compliqué déjà chez les enfants dits ordinaires. Donc, chez des enfants qui souffrent de ce type de pathologie, d'autant que le syndrome de Prader-Willi, par le fait du dérèglement de l'hypothalamus, génère des dérèglements hormonaux sévères, donc au niveau des hormones de croissance, au niveau des hormones thyroïdiennes et aussi au niveau des hormones sexuelles. Donc la période de l'adolescence est une période vraiment clé chez les enfants Prader-Willi.
Est-ce que la majorité des enfants victimes de ce syndrome sont obèses ou en surpoids? Est-ce qu'on peut établir ce constat?
Alors, on va dire autrefois, avant que la maladie soit prise en charge dès le plus jeune âge, ils étaient tous en surpoids et tous en obésité, qu'on dit obésité morbide. Donc, ils l'étaient tous. Parce que très souvent aussi, par la faute de certains médecins qui disaient, bon, après tout, ils ont déjà suffisamment de problèmes comme ça, laissez-les manger, c'est pas facile pour eux, donc laissez-les manger. Maintenant qu'on prend en charge vraiment au niveau paramédical, avec l'intervention des psychomotriciennes, orthophonistes, orthoptistes, éducatrices spécialisées, enfin maintenant qu'ils ont vraiment un suivi dès la naissance, on va dire, avec les nutritionnistes, avec les endocrinologues, les parents sont éduqués aussi par rapport à tout ça, donc l'obésité est de moins en moins présente.
Et comment avez-vous vous-même découvert la maladie de vos enfants?
Alors,
comment découvre-t-on qu'on est atteint du symptôme?
Alors, à la naissance, c'est difficile de s'en rendre compte in utero, on le peut aujourd'hui, mais c'est particulièrement compliqué. Il y a 7000 maladies rares, donc si on devait chercher les 7000 en amniosynthèse, ce serait compliqué, ça coûterait beaucoup d'argent. À la naissance, en fait, les enfants sont extrêmement hypotoniques, c'est-à-dire qu'ils ne bougent absolument pas, ils ne crient pas, ils ne pleurent pas, ils n'ouvrent pas les yeux. Donc, moi, mes enfants étaient prématurés, des vrais jumeaux, donc Donc quand ils sont nés, ils étaient tout petits.
Et donc déjà beaucoup de problèmes à la base déjà qu'on se dit, bon bah on a des enfants prématurés, donc c'est normal, un peu, on va dire ça comme ça,
voilà, hein,
qu'ils réagissent de cette façon.
Voilà, mais en fait on se rend compte très rapidement que vous avez des prématurés de 6 mois qui bougent et qui pleurent et qui crient, et les vôtres ils ouvrent toujours pas les yeux, donc il y a vraiment un problème. Et très rapidement les médecins commencent à vous parler d'analyse génétique, de recherche de maladies et de recherche d'anomalies génétiques ou métaboliques, et on a cherché de ce côté-là, et à 2 mois et demi en fait on nous a annoncé le diagnostic de la maladie.
Est-ce qu'ils ont trouvé rapidement, est-ce que cette maladie est très connue, assez suffisamment connue du personnel médical?
Alors elle commence à être connue du personnel médical, et notamment grâce en partie à l'association Près d'un Relief France, qui fait vraiment un gros travail de lobbying, d'information auprès des différents hôpitaux. D'ailleurs nous, quand on nous a annoncé qu'ils étaient atteints du syndrome, on n'a pas su vraiment nous expliquer ce qu'ils avaient. Mais par contre, la première chose qu'on nous a dit, c'est contacter l'association Près d'un Relief France, ils sont très bien. Donc c'est ce que j'ai fait le lendemain. mais c'est vrai que ça reste quand même une maladie qui est assez peu connue. Mais en néonat, maintenant, quand il y a de l'hypotonie, quand les bébés n'arrivent pas à téter, qu'ils ne crient pas, qu'ils ont ce qu'on appelle une cryptochoriidie chez les garçons.
Qu'est-ce que c'est ?
Les testicules qui sont pas descendus. Donc c'est l'association de tous ces symptômes en fait.
Parce que
ça c'est quelque chose qui peut être assez fréquent.
Qui peut arriver, voilà.
Mais l'association de ce symptôme-là, plus l'absence de succion,
bien devant le micro,
l'absence
Caroline.
De cri, et plus l'absence de mouvement en fait intra-utérin et ensuite après la naissance, fait qu'ils orientent leur recherche vers ce type de maladie.
Près d'un Relief France, c'est le nom de l'association dont vous nous parlez aujourd'hui, Caroline Richard, et dont vous allez continuer de nous parler après une pause musicale sur Vivre FM.
La vie des associations jusqu'à 11h sur Vivre FM.
La vie des associations reçoit aujourd'hui sur Vivre FM l'association Près d'un Relief France, et c'est Caroline Richard qui est avec nous pour nous en parler, et pour nous parler notamment du rôle de l'association. Caroline.
Oui, Benjamin.
Qui est multiple, ce rôle. Hein.
Oui, depuis, l'association va bientôt souffler ses 20 bougies, en fait, cette année.
Bon anniversaire.
Ouais, merci beaucoup. Donc, le rôle, c'est déjà, comme je vous le disais tout à l'heure, un soutien, un accompagnement des familles dans l'annonce du handicap et dans l'accompagnement, en fait, sur qu'est-ce que je vais faire maintenant que je sais que mon enfant est handicapé et quelles sont les démarches que je vais devoir entreprendre. On a aussi mis en place...
Comment ça se passe concrètement? Je veux dire, ça se passe sous l'angle de forum, c'est-à-dire les parents qui sont déjà au courant, qui ont des enfants touchés par le syndrome, témoignent. Comment?
Alors, on nous oriente vers des correspondants régionaux. Donc, qui sont, on fonctionne par région. On trouve la liste sur le site internet de l'association Près d'un Relief France. Donc, ces correspondants régionaux nous aiguillent, nous aident. Et on a aussi des écoutants, en fait. C'est-à-dire des personnes qui sont écoutants jeunes enfants, écoutants jeunes adultes ou écoutants adultes et qui répondent aux questions des familles.
Et comment planifie-t-on toute la vie de son enfant lorsqu'on apprend qu'il est atteint du syndrome et qu'on appelle à l'aide à l'association? Qu'est-ce qu'elle vous dit? Qu'est-ce qu'elle vous conseille de faire?
Alors, comme dans, j'imagine, beaucoup de handicaps, il faut qu'on inscrive, on nous dit, il va falloir qu'on rentre dans le système, donc il va falloir déclarer votre enfant à l'MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées, il va falloir inscrire votre bébé au CAMS, le Centre d'action médico-sociale précoce, parce qu'il va falloir mettre en place des séances de psychomotricité, des séances d'orthophonie, des séances de kiné pour lui apprendre à utiliser ses muscles qu'il n'utilise pas, lui apprendre à utiliser sa bouche qu'il n'utilise pas avec l'orthophonie. On découvre en fait finalement que notre enfant va avoir un véritable emploi du temps de ministre et qu'il va falloir qu'on l'emmène, que je les emmène un peu partout à travers l'Île-de-France pour rencontrer les spécialistes, les endocrinologues, que j'aille à Necker, que j'aille à Toulouse, que j'aille à la Pitié-Salpêtrière. Et on apprend tout ça au fur et à mesure qu'on va découvrir le milieu hospitalier certes, mais aussi paramédical qui est très important dans cette maladie.
Et là également, l'association a tout son rôle, parce que ça se limite pas à l'écoute et au soutien de parents qui ont un enfant, ça y est, qui est avéré près des Willy. Ça continue, le rôle de l'association continue au-delà de l'âge d'enfant, j'imagine.
Oui, l'association a un rôle très très important, notamment dans sa collaboration avec le centre de référence et les centres de compétences. Pour le syndrome de Prader-Willi, on a la chance d'avoir un centre de référence du syndrome qui est situé à Toulouse et un centre de référence, enfin pour les enfants et à Hendaye pour les adultes. Et donc l'association est vraiment très en lien avec toutes les équipes de ces centres de référence et de ces centres de compétences un peu partout en France.
Qu'on comprenne bien, ce qu'on appelle un centre de référence est un centre où effectivement on va pouvoir diagnostiquer l'enfant dans la totalité de son développement, c'est ça,
c'est... Non, c'est là où vous allez trouver tous les professionnels aguerris sur le syndrome. Et quand on va par exemple au centre de référence de Toulouse, on va rencontrer aussi bien le dentiste, l'orthodontiste, l'orthopédiste, le médecin ORL, le médecin endocrinologue référent, mais aussi la pédopsychiatre, la psychologue, éventuellement le neuropsychologue. On va rencontrer aussi bien entendu la nutritionniste. Enfin voilà, c'est le lieu en fait où tout le monde communique et permet aussi de diffuser les bonnes pratiques un peu partout en France.
Une petite question d'ordre pratique, tous ces soins sont très nombreux, ils coûtent très cher, est-ce qu'ils sont remboursés par la sécurité sociale en totalité pour les enfants et pour les adultes?
Alors pas tous. Certains sont remboursés par la sécurité sociale. Alors il y a aussi cette démarche-là qu'on doit faire, c'est-à-dire demander le 100%, la prise en charge à 100%.
Ça va pas de pair avec la déclaration de l'enfant à la MDPH.
Pas du tout.
Ça serait trop facile, effectivement.
Trop facile.
Pardon, j'ai posé une mauvaise question.
Non, le 100%, on le demande à la sécurité sociale. Donc et puis on vous donne un 100% pour en général 3 à 5 ans. Puisqu'on ne sait jamais, des fois que les gènes reviennent.
Ah oui, on ne sait pas, des fois, effectivement.
Oui, c'est une maladie incurable.
Oui, c'est une maladie incurable dont les enfants ne guériront jamais. Et a priori, l'ensemble des symptômes resteront à vie. On pourra éventuellement les atténuer. Il y en aura d'autres qui vont arriver. Donc c'est vrai qu'on est obligé de renouveler ce 100%. Et la MDPH nous aide. Donc il faut faire des dossiers. Donc là, pareil, des dossiers que l'on renouvelle chaque année. Puisque pareil,
c'est pareil, ça peut. On ne sait pas des fois que ça change, on ne sait pas.
Des fois qu'on retrouve les gènes qui nous manquent, etc. Donc, du coup, on refait nos dossiers chaque année. Bon, moi, chaque année, j'envoie à peu près 1,5 kg de dossiers MDPH en recommandé pour avoir des aides, justement.
Merci, les gouvernantes. Pensez à la simplification administrative. J'adore ces mots. Il y a plein de choses comme ça. Il faudrait les recevoir, nos gouvernants.
On a quand même de la chance en France parce que je sais que dans certains pays, malgré tout, on se plaint, mais
oui,
on
oui,
n'a
oui.
pas...
Ah, on trouve toujours pire ailleurs, c'est sûr. Hein.
Mais dans certains pays, il n'y a pas la MDPH
qui
nous aide aussi financièrement. Donc.
Les soins sont pris en charge en totalité.
Alors, donc, les soins médicaux, oui. Pas tous, parce que par exemple, les soins orthopédiques sont pas forcément pris en charge en totalité. Moi, ils ont des problèmes orthopédiques de scoliose ou de semelles aussi spécifiques des coques talonnières qu'on appelle. C'est pas des semelles orthopédiques, ça coûte à peu près 800 euros et elles sont pas prises en charge en totalité.
Ça coûte les pieds de la tête, quoi.
oui, parce que j'en ai deux, donc je multiplie par
plus.
Deux, moi.
En plus.
Benjamin, je fais pas comme tout le monde.
Oui, Carole.
Oui. Est-ce que vous êtes actuellement mère de deux enfants, donc des jumeaux qui sont atteints du syndrome? Est-ce qu'ils vont à l'école? Est-ce que c'est possible pour eux d'aller en maternelle dans un milieu ordinaire ou alors est-ce qu'ils sont dans un milieu protégé?
Alors aujourd'hui, j'ai aussi une troisième enfant, parce qu'elle va être jalouse si on parle pas d'elle.
Ah oui, quand même.
J'ai une grande fille de 8 ans et demi qui s'appelle Romane.
Eh ben on l'embrasse.
Alors aujourd'hui ils vont en maternelle, ils vont faire 4 années de maternelle, donc ils ont fait une deuxième moyenne section et ils feront en fait une grande section l'année prochaine. Et ensuite, on doit faire toute une série de bilans. On est en plein dedans, bilan neuropsychologique, bilan psychologique, bilan de comportement, bilan d'apprentissage, etc. Pour voir en fait comment ils évoluent. Et savoir s'ils pourront aller en CP, en Ulysse école ou en IME, en institut médico-éducatif.
Puisque c'est possible pour certains enfants de suivre une scolarité normale jusqu'au lycée?
Alors, certains enfants atteints du syndrome de Prader-Willi arrivent à suivre une scolarité normale, souvent aidés par une AVS. Alors, enfin, c'est souvent au moment du collège que ça bloque, hein. Comme je vous l'avais dit, l'adolescence.
Par rapport à l'adolescence.
Voilà. Et aussi, il y a vraiment un décalage en termes de, on va dire, sociabilisation avec les autres. Et très souvent, même ceux qui arrivent à aller jusqu'au lycée ou même faire éventuellement un BTS, ça c'est arrivé, hein, on en connaît. Ils ont ensuite des problèmes d'insertion quand même dans la vie.
Sociabilisation quand
ouais,
même.
Ouais, ouais, c'est compliqué. Difficulté parce que c'est pas des adultes qui ont tout à fait les mêmes repères
que évidemment. Nous. Voilà. Alors nous, on a quelques repères justement dans l'émission, dans nos pauses musicales. En voici une tout de suite et puis on continue à parler avec vous de votre association Pradère Willy France sur Vivre FM.
La vie des associations jusqu'à 11h sur Vivre FM.
Et il ne nous reste que quelques minutes à passer en compagnie de Caroline Richard, qui représente l'association Pradère Willy France. Alors, tout à l'heure, vous nous disiez hein, que le syndrome de Pradère Willy est une maladie rare. En matière de maladie rare, on peut dire que votre association est une association référence ?
Alors oui, on fait partie de l'Alliance Maladies Rares. On a eu de plus en plus de reconnaissance et de légitimité. Et aujourd'hui, on est la référence sur le syndrome de Prader-Willi. On est une association de bénévoles. Hein. On travaille tous sur la reconnaissance du syndrome. Et dans le cadre du plan Maladies Rares, en fait, il y a eu des filières qui ont regroupé plusieurs associations. Et Prader-Willi France fait partie de la filière déficience. Donc défi plus loin science,
oui, un joli jeune mot.
Voilà, sur la déficience intellectuelle en fait. Mm-hmm. Et donc, en travaillant avec l'État à travers cette filière déficience, ça a permis de sortir un certain nombre de recommandations en fait, et avec des pistes en fait pour adapter les méthodes pédagogiques aux enfants qui ont des déficiences intellectuelles dont font partie en fait les enfants qui souffrent du syndrome de Prader-Willi. Donc,
Par exemple, quelle est l'évolution que vous avez vu,
constaté.
Voilà, que vous avez pu constater pour l'éducation des enfants.
Alors, pour l'instant, il y a eu, bien entendu, les AVS, la possibilité de faire bénéficier à nos enfants d'AVS dans l'accompagnement en fait des enfants. Le plan en fait de synthèse et de recommandation de la filière déficience n'est pas encore mis en place. Il est annoncé, mais pas encore mis en place. Donc, on espère qu'il y aura encore plus d'évolution, puisque malheureusement, les AVS ne sont pas formés, les auxiliaires de vie scolaire ne sont pas formés au handicap. Elles ont pas de notion de sur le handicap. Elles ont pas le droit de renouveler leur contrat. Enfin, on sait tout ce que
pas
ça.
Pas encore tout ça. Les AVS, on en parle quand même depuis un certain nombre d'années. Elles existent depuis un certain nombre d'années. Néanmoins, leur statut n'a pas vraiment, franchement, évolué.
Non, pas du tout. Pas du tout. Et on le voit bien. Hein. Elles sont perdues quand elles arrivent. Elles savent pas. Par quel bout prendre nos enfants ?
C'est quand même assez fou, puisque ce sont par essence des auxiliaires, donc des aides pour la vie scolaire des enfants.
Exactement.
Et elles n'en connaissent rien.
Elles ne connaissent pas. Et en plus, on leur dit qu'elles ont un contrat de 2 ans et qu'on ne va pas leur renouveler, donc, même avec un autre enfant.
Et comment ça se passe avec vos propres enfants ? Vous avez une ou deux AVS ?
Alors, j'ai la chance d'avoir deux AVS parce qu'ils sont dans deux classes différentes. Donc, on a voulu les séparer pour qu'ils aient vraiment chacun leur petite vie bien tranquille. Et donc, ils ont chacun une AVS. Et voilà, on voit bien que c'est pas évident. Et c'est des personnes qui sont en effet pas formées. Donc il leur faut du temps en fait pour rentrer en contact avec l'enfant et pour comprendre les méthodes pédagogiques.
Et au moment où elles comprennent tout, on leur dit non, on va pas renouveler le contrat.
Exactement.
Super, magnifique. Formidable.
Votre association Prader Willy France soutient la recherche.
La recherche également, oui.
Oui, tout à fait. On est très très présent, comme je vous l'avais dit, auprès du centre de référence. On est très présent en fait auprès des professionnels de santé et on soutient plus particulièrement des projets de recherche. On participe à des projets de recherche. On a travaillé sur des projets de recherche sur l'ocytocine administrée aux nouveau-nés pour leur permettre de renforcer le lien mère-enfant et la succion en fait pour
d'être
leur apprendre
plus tenu. Oui, par conséquent, vous nous disiez la difficulté pour ces enfants de téter.
Exactement. L'ocytocine aussi sur l'adulte, avec l'effet de l'ocytocine sur les troubles du comportement et sur les troubles du comportement alimentaire, en fait.
Ah, ça, c'est pas mal.
Chez les adultes. Donc,
on tient donc le bon bout, on va dire.
On a des pistes aussi sur la gréline et l'association des deux grélines qu'on produit dans le cerveau et qui, semble-t-il, chez les patients Prader-Willi ne sont pas suffisamment équilibrées. Donc, on essaie de voir quel lien ça peut avoir. aussi avec avec la gestion de la satiété. Donc on travaille très étroitement avec les chercheurs justement autour de la recherche.
Lorsque vous dites que vous travaillez, qu'est-ce que vous faites exactement? Est-ce que vous financez? Est-ce que vous aidez concrètement en participant à des enquêtes?
Alors, on a un conseil scientifique en fait qui travaille et qui réunit des parents et des praticiens, des chercheurs. Donc déjà, on est au courant et on donne aussi des pistes aussi sur les symptômes qui sont les plus complexes à gérer pour les personnes atteintes. Et bien entendu aussi, on finance. Donc on finance par le biais des dons qu'on reçoit de l'association, par le biais des marches comme les marches un petit pas. Donc l'année dernière, on a collecté 80 000 euros. Donc,
80 sur 000 Paris, euros,
ah, c'est pas mal, ça, c'est bien.
Sur la France,
c'est un joli petit pas.
Oui. Donc voilà, c'est un beau petit pas. Oui, et avec cet argent, on peut financer des protocoles de recherche. Et bien entendu aussi, on fait des appels à des patients qui souhaiteraient participer à des protocoles de recherche.
Et puis j'imagine, alors justement pour financer cette recherche, que vous êtes, en recherche de toute idée de manifestations qui pourront vous faire mieux connaître et qui pourront alimenter de futures recherches.
Alors là, on a aussi, un petit pas, c'est sur Paris le 12 juin, mais en septembre, on va avoir des petits pas qui seront faits aussi dans d'autres villes de province. Donc on aura Cahors, on va avoir probablement vers Rennes, dans l'Allier. Enfin, on va avoir plusieurs marches qui vont avoir lieu aussi à Poitiers.
Donc comme on dit à la télé, attention à la marche.
Exactement. Donc on va avoir plusieurs relais en province. Donc on a confiance. Cette année, on sent que ça va être une belle année encore une fois.
Faut en parler. C'est pareil. Il faut pas hésiter. Hein.
Ouais.
Dès qu'il y a une marche qui se fait jour, dès qu'on peut alerter la population, dès qu'on peut alerter les uns et les autres pour qu'ils vous rejoignent. Dans ces marches, il ne faut pas hésiter à nous le dire.
Hein. Pas de souci, Benjamin.
Faire un tour de France des marches pour Frédéric Willy.
Ouais,
alors, la prochaine, hein, on le rappelle, ce sera le 12 juin prochain.
Le dimanche, oui.
Dimanche juin. 12 juin. Et on espère à cette occasion que de 550 que vous étiez, vous serez, je ne sais pas, plusieurs milliers, puis que vous pourrez vous tenir la main et que comme ça, vous ferez tout un cercle autour du lac.
Du lac de Ménil, hein, dans le bois de Vincennes.
Autour
tout
du
à
lac
fait.
De Ménil. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur Frédéric Willy France qui n'ait été dit déjà?
Bah écoutez, c'est vrai qu'on a dit beaucoup de choses. On travaille aussi, bien sûr, sur les lieux de vie, les soins de suite et de réadaptation. On travaille sur des séjours de répit pour que les enfants puissent aller en vacances et que les familles puissent se reposer un petit peu parce que le handicap est présent et
les
très
familles
présent.
Ont besoin également de répit, puis il faut qu'elles puissent profiter de ces répits sans culpabilité aucune, hein.
Exactement,
on peut de temps en temps
Benjamin,
laisser ses enfants et on les retrouve avec d'autant plus de plaisir.
C'est
on
pas
vous
évident.
Retrouvera toujours avec beaucoup de plaisir. On se donne rendez-vous le 12 juin prochain autour du lac de Vincennes. Et auparavant, donnez-nous les coordonnées de Frédéric Willy.
Alors, vous pouvez nous retrouver sur le site internet prader-willy.fr.
Et attention, pas d'Y, hein.
Voilà.
W-I-2-L-I.
Ou sur le site de la marche, unpetitpas.fr, tout à fait.
Très bien. Vous faites quelques petits pas et puis vous revenez quand vous voulez, Caroline Richard,
avec
bien
plaisir,
évidemment.
Avec plaisir, Benjamin.
Hein. Merci à vous.
Au revoir.